Alors, je suis Véronique Lecoarère, donc je suis représentante FCPE. Je remplace aujourd'hui quelqu'un qui devait parler au nom, on va dire, de la FCPE nationale. Moi, je suis une femme beaucoup plus de terrain parce que je suis présidente de la FCPE du Rhône. Et je suis vraiment très, très présente sur le terrain. Mais j'ai quand même une vision d'abord départementale, puisque la FCPE est très bien représentée sur le Rhône. Je peux avoir des remontées à peu près de entre 300 et 350 établissements, ce qui quand même déjà est une bonne vision sur le département du Rhône, surtout qui n'est pas très très grand. Et j'ai une vision un peu plus nationale, dans le sens où je rencontre les autres présidents des FCPE sur les autres départements. Par contre, je n'aurai pas une parole nationale, hein, puisque c'est... voilà. Et en plus de ça, je n'ai été prévenue qu'il y a une semaine que je devais intervenir. Donc voilà, pas toujours très très facile. Alors en plus de ça, donc moi je suis la mère, mon dernier fils qui est encore dans le système scolaire est en lycée professionnel. Et donc je vais bientôt quitter le système scolaire et donc la FCPE. Mais donc voilà, vous aurez toute mon expérience.
Alors donc rebonjour, Élise de Galles. Donc moi, je suis représentante de la PEP. Vous avez également deux de mes collègues régionaux et locaux qui sont présents dans la salle. Donc je suis mandatée par la Fédération nationale, mais je vais aussi témoigner à travers mon expérience locale et départementale. Je suis maman de quatre enfants, élue en primaire, avec trois enfants en primaire et grande enfant à l'université. Voilà. Je vous ferai part en fait de ce qui a été observé sur le terrain et je pense vous pourrez constater que la FCPE et la PEP vont se rejoindre très certainement sur des constats.
Donc Patrick Telade. Donc je suis pas IAIPR de VS, hein, je suis normalement toujours proviseur vie scolaire, je le saurai demain matin. Et donc je m'occupe des dossiers spécifiques, si vous voulez, aux procédures disciplinaires dans l'académie, hein, notamment en termes de conseils auprès des établissements, d'une part, et d'autre part de mise en place des procédures dans le cadre des réformes, hein, qui ont été dont j'aborderai rapidement donc les différents événements éléments chronologiques. Ensuite, j'apporte également, si vous voulez, des réflexions, alors en complément avec mes collègues IAIPR-VS, donc sur les analyses, hein, que l'on fait, notamment liées au conseil de discipline. En termes de procédure et en termes également donc de décision, ainsi que sur les sanctions qui sont prononcées par les chefs d'établissement. Voilà, alors ce sont des éléments d'analyse, hein, liés à, si vous voulez, une politique, comme vous avez pu aborder tout à l'heure, notamment liés à des impulsions sur, par exemple, les actions éducatives à mener dans les établissements scolaires. Voilà.
Merci.
Donc moi je suis Cynthia Fréné, je suis inspectrice dans l'Académie de Guadeloupe. Je vais intervenir tout ce qui relève de l'école primaire, donc de la maternelle jusqu'au CM2, sur la question des conseils d'école, mais je vais aborder la question d'un point de vue général, institutionnel, mais également avec quelques exemples en contexte, donc propres à ce que je vis à l'Académie de Guadeloupe, et certainement que vous vous rendrez compte que la France est bien une et indivisible, parce que vous allez trouver énormément de points communs avec ce qui se vit ici en Hexagone. Donc ça, c'est un premier point. Et je m'autorise aussi à interpeller une autre instance qui est moins collective, mais justement parce que je souhaite vous proposer d'analyser les deux avec l'entrée par l'équipe éducative, qui n'est pas du tout le conseil de discipline, mais vous verrez que par certains côtés, on s'y retrouve un peu. Voilà.
Alors, moi j'ai voulu quand même rappeler quelque chose. Donc le représentant de parents d'élèves dépasse ses seuls intérêts particuliers immédiats pour prendre en compte les intérêts de tous les enfants. Les parents d'élèves fédérés sont des bénévoles qui apportent au système scolaire un regard de parents citoyens. Puis je voulais quand même aussi apporter quelques chiffres. Alors pour la FCPE, donc 320 000 parents d'élèves qui sont engagés pour répondre aux exigences de 1 500 000 familles qui les ont soutenus lors des élections scolaires. Donc voilà, c'est quand même des chiffres. Et donc c'est 57 000 parents élus FCPE dans les conseils d'administration et les conseils d'école. Et donc j'ai pas compté tous les parents qui étaient aussi présents dans les conseils de classe et puis toutes les instances où on est présent. Donc, savoir... aujourd'hui, donc, le ministère de l'Éducation nationale définit la place des parents. Il est connu et reconnu. Le rôle de la place des parents d'élèves sont reconnus et leurs droits sont garantis par des textes qui sont nombreux et très clairs. Le rôle des associations de parents d'élèves est reconnu et l'exercice du mandat des représentants des parents est facilité. Donc on peut se demander comment on pourrait encore améliorer. Et en tout cas, on est un peu tous d'accord. C'est pas en rajoutant des textes, parce qu'on pense qu'ils sont vraiment suffisants. Et le tout, c'est que ces textes soient appliqués et surtout respectés. Moi, donc, en tant que présidente au niveau du Rhône, et de permanence, ne serait-ce que pour les élections, le nombre de dysfonctionnements que nous avons quand il s'agit d'élire les parents d'élèves. D'abord, rappeler déjà que l'élection des parents d'élèves est tout de même la seule élection où on peut élire des parents de nationalité étrangère, ce qui est déjà pas rien. Hein, je vous rappelle que c'est la seule. Mais en plus de ça, on est toujours... alors, les dysfonctionnements, je pourrais vous en faire à l'appel. Les chefs d'établissement, directeurs, directrices d'école qui choisissent les parents qu'ils veulent sur leur liste ou qui nous téléphonent en disant « Oh, mais non, vous n'allez pas mettre un tel. Oh non, non, elle est trop pénible. » Enfin, voilà. On est confronté au moment des élections de parents d'élèves, et je ne vous parle pas de tous les documents qu'ils doivent fournir, des enveloppes où on est obligé de se battre pour les avoir. Voilà, on est... et je trouve que peut-être notre moment le plus compliqué dans l'année pour faire respecter les textes, c'est vraiment au moment des élections. Et on est quand même... Et je ne vous dis pas, moi je suis toujours de permanence, le jour même des élections où j'ai des... de téléphone pour savoir comment on doit calculer un quotient électoral. Alors je me dis très bien, si les chefs d'établissement n'y arrivent pas toujours, je me dis peut-être qu'il y a quand même des soucis quelque part. Donc on se dit vraiment si tous les textes pouvaient être respectés, on aurait déjà avancé d'un grand pas. Je parle pas non plus de la distribution des documents qui est soumis de temps en temps à censure, alors que dans les faits, il y a des règles, mais dès le moment où on tient ces règles, ils ne doivent pas être censurés. Et aussi, là où on a beaucoup de problèmes, c'est au niveau des horaires de réunion, les horaires des conseils de classe, les horaires des conseils d'école. Ben, pensez qu'un parent, il est bénévole et que souvent, il a un travail à côté. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on demande, que de vérifier la disponibilité des parents avant de mettre des heures de réunion. Et on pourrait même dire que c'est pareil au moment des conseils de discipline, bien vérifier que les parents soient disponibles, ne serait-ce que pour venir. Alors, la participation active des parents passe par la rédaction des comptes rendus ou alors, je parle bien là de l'instance du conseil d'école ou du conseil du conseil d'administration, où l'expression des parents n'est pas réduite à portion congrue. On s'aperçoit qu'un compte rendu, moi j'ai des remontées d'établissement, je lis les comptes rendus et je m'aperçois que sur quelque chose, il y a une phrase, à croire qu'il n'y a pas de débat. Moi, que je vais dans mon conseil d'administration, sur chaque point, il y a un débat, et ce débat n'est jamais retranscrit dans les comptes rendus. Donc on sait jamais si les gens sont intervenus, pas intervenus, et quand on arrive dans un établissement scolaire, qu'on demande à lire les comptes rendus, un petit peu ce qui s'est passé, en fait, on n'a aucune vie de l'établissement, on ne sait pas ce qui s'est dit, on ne sait pas ce qui s'est fait, parce que vraiment, les comptes rendus, souvent, sont réduits à portions congrues. Et aussi, une chose qu'on revendique et qui est pourtant marquée dans les textes, on n'arrive jamais avoir les documents de préparation à toutes ces réunions. Et ça, on se bat souvent pour les avoir. Donc, on les a le jour de la réunion, un quart d'heure avant, quand c'est bien, et on nous demande en plus de les voter. Voilà, donc il y a sûrement des choses là à améliorer. Et je dirais aussi que pour associer les parents, peut-être les représentants de parents, c'est les associer au projet d'école et au projet d'établissement. Alors, depuis que je suis, on va dire, dans le secondaire, d'être associé au projet d'établissement, j'ai beaucoup plus de facilité. Mais dans les projets d'école, alors là, j'ai été très très longtemps en conseil d'école, je n'ai jamais été associée au projet d'école. Et je trouve que c'est un peu compliqué alors que légitimement, on a tout à fait notre rôle. Alors, pour nous, Fédération de parents, et je pense que ma collègue, puisqu'on se bat ensemble là-dessus, c'est d'avoir un statut du parent délégué qui serait de nature, je pense, à renforcer la cohésion de la communauté éducative et la cohérence des adultes face aux élèves. Donc, on est des bénévoles, tous. On a une activité soit de parents au foyer pour certains, soit de retraités, soit de professionnels. Mais donc, ce statut vraiment nous aiderait à tenir parfaitement notre rôle dans toutes les instances de l'éducation nationale. Pour compléter ce statut, il faut que dans ce statut aussi, il faut que les parents puissent se former. Je ne veux pas faire des parents professionnels, parce que ça, je me refuse, parce que le parent professionnel fait peur aux autres parents. Donc, je ne veux pas rentrer dans cette catégorie de parents professionnels, parce qu'après, quand on s'exprime devant d'autres parents, ils se disent « mais jamais on arrivera ». Et donc, il faut vraiment qu'on reste des parents comme les autres parents. Voilà. Mais n'empêche qu'il faut quand même aussi qu'on ait de la formation, et nous on en fait beaucoup, on essaye d'en faire le plus possible. En tout cas au niveau du Rhône, on essaye vraiment de former nos parents. Je l'ai déjà dit, donc on forme entre 300 et 400 parents chaque année pour toutes les instances. Pour poursuivre, je dirais que la place des parents n'est jamais aussi légitime que dans les conseils de classe ou dans les conseils de discipline, où il peut ou doit apporter un regard différent sur l'élève. Dans les conseils de classe, on arrive souvent à tempérer un petit peu l'impression des enseignants sur les élèves, d'autant plus quand dans la classe ça se passe pas bien. Moi je suis en lycée pro, il n'y a pas beaucoup d'élèves, mais quand j'entends de temps en temps, pourtant Dieu sait que ça se passe bien dans les lycées professionnels, quand j'entends, ils sont là à se dire qu'est-ce qu'on va mettre comme petit avertissement. Alors est-ce qu'on met un avertissement au travail, un avertissement au comportement, et ils sont là un petit peu, et puis il y a des moments on leur dit, mais attendez, stop, c'est pas un jeu, on n'est pas dans un jeu vidéo où on met des avertissements comme ça pour faire plaisir, non, on travaille, enfin voilà. Et je pense que c'est vrai que pour eux ça a été une nouveauté un peu de me voir arriver, parce qu'avant ils n'avaient pas de représentants de parents, et là ils en ont. Mais j'ai été un peu offusquée de la façon dont ça se passait. Il a fallu vraiment que j'apporte un regard neuf, et puis que j'essaie de trouver des parents aussi pour être présent dans les autres conseils de classe, ce qui est très très difficile. Quant au conseil de discipline, on vient de beaucoup en parler. Je pense que les parents sont vraiment, les représentants de parents sont vraiment légitimes, parce que ils peuvent apporter un regard différent sur leur enfant. Et je trouve que on fait partie un petit peu de ces gens qui sont justement pas jugés partis, parce que souvent on s'aperçoit que dans un conseil de discipline, c'est souvent des attaques qui sont directement envers ou les enseignants ou le personnel administratif. Et quand je vois ces mêmes enseignants, ces mêmes personnels administratifs qui sont quelque part les juges, le mets bien entre guillemets. Qui sont les juges de ces élèves, je me dis on est sur un dysfonctionnement, puisque on est juge à la fois juge et partie. C'est très très compliqué, et je vais continuer même sur à des moments je me dis est-ce qu'on est vraiment légitime, et je mets vraiment tout le monde, est-ce qu'on est vraiment légitime pour traiter certains cas en conseil de discipline. Moi j'ai eu le cas en tant que là il n'y a pas très très longtemps d'un jeune homme qui a envoyé à l'hôpital pendant 3 jours un de ses... Et je me dis, là, je ne me suis pas du tout sentie légitime en tant que parent représentant pour traiter ce cas. Je me suis dit, ce n'est pas de mon ressort. Parce que d'un côté, je me dis, je vais bien être bienveillante pour cet enfant, je vais bien apporter quelque chose de nouveau, du pourquoi. Mais d'un autre côté, je suis aussi une mère. Et je me dis que si ça avait été mon fils qui était à l'hôpital pendant 3 jours parce qu'il avait été tabassé, qu'est-ce que j'aurais fait ? Donc je trouve, là, je me pose toujours des questions sur la légitimité de ce conseil de discipline. Alors, pas toujours, hein, mais là, il y a vraiment des cas, je me dis, on n'est pas légitime, on n'est pas là, on n'est pas des professionnels, et je ne suis pas sûre qu'on soit les bonnes personnes dans ces conseils. Puis, pour terminer, je voudrais juste faire part de l'évolution de mon travail au sein de la FCPE départementale du Rhône. Il y a encore 2-3 ans, ça fait très longtemps que je suis au département, il y a encore 2-3 ans, toutes les questions qu'on nous faisait remonter, des questions très techniques sur les textes, comment ils pouvaient tenir leur place. Et je trouve que de plus en plus, nous avons un travail de médiation à faire. Et un travail de médiation et qui nous prend des heures. Je m'aperçois que pratiquement tous les jours, on a 2-3 heures de médiation à faire. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on a vraiment vu arriver. C'est ce rôle vraiment de médiation des parents d'élèves. Et c'est un rôle qu'on n'avait pas autant avant. C'est vraiment quelque chose qui a évolué et depuis, je dirais, 2-3 ans. Alors, je ne sais pas si c'est un constat que d'autres parents d'élèves, alors on n'est pas très nombreux ici, mais d'autres parents d'élèves ont pu avoir. Mais vraiment, voilà, je voulais terminer là-dessus. Sur ce travail vraiment de terrain, de médiation qu'on a de plus en plus à faire. Voilà.
Merci beaucoup.
J'espère que je ne vais pas être trop longue et surtout que vous me pardonnerez peut-être l'effet catalogue de ce que je vais vous dire. J'ai essayé d'organiser mon intervention sur la relation école et parents d'élèves et en un deuxième temps sur la relation école et représentants de parents d'élèves, qui sont deux dimensions différentes. Tout rapidement, la PEP, la plus ancienne fédération de parents d'élèves, la deuxième au niveau national, 200 000 adhérents. Je rejoins effectivement ma collègue FCPE sur le fait qu'on s'est bien entendu pour revendiquer un statut de parent délégué, effectivement, pour pallier aux indisponibilités professionnelles et pouvoir assumer nos mandats de façon optimale. Donc, je dirais en introduction qu'en fait, le parent est dans un registre émotionnel quand il s'adresse à vous, quand il s'adresse à l'école. Tandis que l'équipe pédagogique est plutôt dans un registre de neutralité par contrainte professionnelle. Donc ça crée forcément un décalage dans le dialogue. Donc en ce qui concerne les conditions d'un dialogue école-parent d'élèves, bien sûr la disponibilité physique, la disponibilité téléphonique aussi, et peut-être accentuer les échanges électroniques. Hein, vous me pardonnerez cet aspect environnemental et moderne, mais ça peut pallier justement à certaines indisponibilités. On se rend compte parfois que l'enfant est messager, justement également pour pallier à l'indisponibilité. Le carnet de liaison, alors je vais employer des termes qui sont propres au premier degré parce que c'est plus l'expérience... que je vais relayer. Donc le cahier de correspondance est vraiment un outil probant en fait, hein, entre les parents et l'enseignant. Ce qu'il est important de dire, c'est que dans la relation et le dialogue, il est important d'impliquer les deux parents. On a souvent, très souvent, la maman de solliciter. Or, en impliquant les deux parents, on donne la preuve à l'enfant d'un intérêt renforcé de tous les adultes qui ont en charge sa réussite éducative, en fait. Et puis, ça permet que les observations entendues sur le comportement de l'élève soient rediscutées avec l'enfant avec une certaine cohésion du discours, en fait, entre... du discours de l'adulte, des adultes coéducateurs. Et cette cohésion du discours enseignant-parent, en fait, elle permet la sécurisation de l'enfant, en fait, entendre une parole concertée. Il serait important aussi de définir le champ de la discussion, parce que il y a des sujets qui sont intimes, on en a déjà parlé, il y a des sujets qui sont tabous. D'ailleurs, parmi ces sujets tabous, permettez-moi une petite provocation, il y a l'application des circulaires et, et l'application de la mission des parents d'élèves inscrite dans le décret de juillet 2006. Souvent, naïvement, les représentants de parents d'élèves dans leur mission, justement, avancent les écrits, les textes. Et puis, dans la réalité, on peut se rendre compte d'obstacles, en fait. Ensuite, il faut définir une zone... définir aussi le champ, en fait, de ce qui est possible en termes de jugement des uns et des autres. Il y a des jugements de la part des parents sur la façon d'exercer, qui provoque justement de la compréhension ou de l'émotion, et il y a des jugements de la part des enseignants sur la manière d'éduquer. Il faut définir une zone d'action, du coup, qui est convergente, qui est conjointe, pour accompagner la réussite scolaire de l'élève. Poser les limites du territoire de chaque acteur. Il faut identifier et être en droit d'énoncer l'intérêt du collectif, parce que souvent, quand il y a un problème individuel d'un élève, on oppose aux parents la conduite du groupe classe, la sérénité de l'apprentissage dans le groupe classe. Donc à la fois, il faut trouver le moyen d'être en droit d'avancer l'intérêt collectif du groupe classe et le droit individuel à la réussite de l'élève, à une scolarité apaisée, à une scolarité adaptée à son enfant, sans que le programme scolaire soit ralenti par une adaptation. Il faut définir si tous les acteurs du dialogue ont une obligation. Il faudrait, pardon, j'emploie conditionnel, c'est à vous de juger. Il faudrait définir s'il y a une obligation de résultat. Est-ce que l'enseignant, faire son métier de pédagogue, transmettre les valeurs de la République, augmenter la connaissance et la culture de l'enfant, entretenir le vivre ensemble. Pour le parent, surveiller l'acquisition des apprentissages, entretenir la culture de son enfant et le savoir-être de l'enfant, son sens du respect de l'autre, adulte ou enfant. Il faut lever les contradictions. Par exemple, j'espère que vous pourrez avancer une explication. On se rend compte que dans les moments conviviaux, à l'initiative de l'école, la parole est plus libérée entre les parents et les enseignants. Alors que quand ce sont des moments finalement contraints, rendez-vous, conseils, instances, il y a une posture professionnelle ou une posture de mandat qui fait que les échanges et le dialogue est beaucoup moins naturel. Il est même biaisé par une sorte de pas méfiance, mais peut-être un excès de principe de précaution. Donc les enseignants sont amenés à dire, en ce qui concerne le rôle des représentants d'élèves, quand ils souhaitent que l'école soit plus ouverte, parce que se faire rencontrer les différents acteurs, enseignants, parents, représentants de parents d'élèves, c'est aussi trouver un temps commun, un lieu commun, et ça c'est difficile à faire, en dehors des instances justement, ou en dehors des réunions programmées dans le cadre des projets d'école ou des projets d'établissement. Donc souvent, on entend les enseignants opposés à des tentatives de rencontre, opposés aux parents d'élèves ou aux représentants de parents d'élèves, qu'ils sont là avant tout pour les enfants. C'est bien ce que nous avons en commun, nos enfants. On vous confie nos enfants et on s'intéresse au devenir de nos enfants dans les murs de l'école et hors les murs de l'école. Et l'aspect d'intrusion des parents ou de jugement de valeur on doit trouver le moyen de gommer ce sentiment, en fait, de jugement. D'autant plus que même si le corps enseignant avance qu'il est avant tout là au service des enfants et non pas au service des parents, le corps enseignant est quand même prescripteur ou préconisateur, c'est moins affirmé, préconisateur d'orientation, les orientations médico-sociales, lorsqu'il y a des difficultés d'apprentissage. Donc ça met dans une posture un petit peu finalement double, à la fois celle d'être au service des enfants dans les murs de l'école et à la fois celle d'être intrusif au-delà des murs de l'école, au bénéfice des enfants d'ailleurs, puisque ces préconisations-là sont données aux familles pour remédier à des situations voilà, de difficulté et de souffrance scolaire. Il faut s'inscrire dans une hiérarchie des repères aussi. On nous demande, aussi bien l'équipe pédagogique qu'aux parents, d'être un modèle adulte pour l'enfant. Donc, est-ce que l'équipe enseignante doit être un modèle en termes de d'éducation à la citoyenneté? Est-ce que le parent doit être un modèle en termes d'éducation à l'humanité, au savoir-vivre? Ou est-ce que, finalement, les deux entités de la communauté éducative ont un rôle ou un terrain qui converge en ce sens? Voilà ce que je pourrais vous dire en ce qui concerne les relations école et parents d'élèves. Et puis, bien évidemment, dans le dialogue, il y a les barrières du langage. Et là, les représentants de parents d'élèves, je pense, ont le souhait, ont la volonté d'être médiateurs. Et d'ailleurs, ce rôle de médiateur que ma collègue FCPE soulignait est inscrit dans le décret de juillet 2006. Donc, il a toute sa place. Pour être médiateur et accompagner un parent en difficulté de compréhension des codes de l'école, il faut que le représentant de parents d'élèves soit reconnu dans son mandat. Voilà. Qu'il ne soit pas reconnu dans la limite des instances, mais qu'il soit reconnu dans l'accompagnement tout au long de l'année scolaire. Ce qui me permet d'enchaîner sur les conditions du dialogue entre l'école et les représentants de parents d'élèves. Donc ce que je viens de vous dire, il m'est arrivé d'entendre que le conseil d'école est une instance, un lieu d'information. Et ce n'est pas tout à fait l'avis des représentants de parents d'élèves, puisque les textes prévoient que c'est un lieu de débat, voire même un lieu de décision conjointe. Et quand on parle du projet d'école, c'est vrai qu'il nous est présenté abouti en instance et qu'il faudrait trouver le moyen de lever les craintes du corps enseignant, en lequel le parent a très, très globalement entièrement confiance pour les apprentissages de son enfant, de lever leurs craintes du jugement de leur méthode, du jugement de leur projet, voilà, et souligner un peu plus d'écoute de la part des parents et des enseignants. On est bien conscient, me semble, aussi que le moral, entre guillemets, des troupes a toute son importance. Parce que nous, en tant que citoyens, parents citoyens, on sait quelles répercussions peuvent avoir des conditions d'exercice professionnel voilà, compliquées. On est apte à comprendre que l'environnement professionnel peut se traduire par une posture de précaution ou de retrait. Mais c'est dommageable quand elle devient, on va dire, une réponse systématique à des tentatives d'ouverture vers le dialogue ou vers l'innovation, voilà, ou vers la collaboration. Que pourrais-je vous dire d'autre? Je ne sais pas si vous rejoignez voilà, le constat. Du coup, on se demande en tant que parents d'élèves si notre coopération en fait se traduit par accompagner le discours de l'enseignant hors les murs de l'école auprès de notre enfant, finalement se mettre au service des enseignants et plus au service de l'élève et de sa famille, même si par ricochet, bien entendu, le discours professionnel, le discours bienveillant de l'enseignant sert à la réussite éducative. Voilà, il faut vraiment définir notre rôle en tant que parents d'élèves et en tant que représentant de parents d'élèves. Et ce que je voulais souligner, c'est que les représentants de parents d'élèves, en fait, ne se distinguent pas comme entité médiatrice, ou ne se distinguent pas assez comme entité médiatrice. Souvent, on est assimilé à la globalité des parents d'élèves dans la communication. Voilà. Alors que les parents d'élèves nous ont désignés pour justement exercer un mandat et pour être un petit peu le, finalement, une sorte d'entonnoir, filtrer un petit peu les choses, la masse d'informations, la reformuler, les accompagner en, entre guillemets, en audience, les conseiller. Et notre rôle de représentant de parents d'élèves, vous parliez de la difficulté de représenter un parent d'élève dans une situation d'agressivité, de violence scolaire. Bah, notre rôle de représentant de parents d'élèves, je crois qu'on l'entend tous, c'est pas seulement faire plaisir à la famille et à l'élève, c'est aussi lui faire entendre raison quand il le faut. Donc les conditions du dialogue, c'est vraiment la confiance. Et puis je crois que ça nous dépasse tous, en fait, les conditions du dialogue, c'est avoir le temps de le faire. Et ça, on sait, on est conscient que quand on est chargé de famille avec des enfants en bas âge, quand on est famille monoparentale, quand on est professionnel, quand on est enseignant, on n'a pas des horaires extensibles. Donc c'est difficile de trouver le lieu de rencontre et le lieu de coopération.
La suite. Bien, donc j'aborderai trois points successivement. D'abord, un petit point sur l'élection des représentants des parents. Puisqu'on vient d'aborder ce point, la place des parents au conseil d'administration et ensuite la place des parents dans le conseil de discipline. Voilà, alors ce qui relève des élections de parents d'élèves, alors peut-être que vous avez déjà eu accès à ces données, mais en tout cas pour vous faire un petit bilan de ce qu'il en est. Alors là, je reprends peut-être des bilans académiques, mais qui sont proches, si vous voulez, de ce qu'on a au niveau national. Le taux de participation, ce qu'on constate évidemment, c'est que le taux de participation donc au vote diminue avec la scolarité de l'élève. C'est un des premiers points qui avait été dont on a tiré le bilan. Notamment la présence plus importante des fédérations dans le second degré par rapport au premier degré. Alors, ces deux points, comment ils s'expriment clairement? Par exemple, vous avez déjà au premier degré 60% des parents qui se constituent en association, qui ne sont pas affiliés, qui sont autonomes et non affiliés à une fédération. Donc c'est pas rien. Donc ça veut dire qu'il y a moins de 20% des associations qui sont présentes affiliées à une fédération dans le premier degré. Par contre, dans le second degré, ça passe à peu près à 50% d'associations qui sont fédérées, et elles ont pratiquement, vous voyez, la part la plus importante dans la représentation des parents d'élèves. Par contre, en termes de participation, donc je disais que ça diminuait avec la scolarité, donc on a à peu près dans le premier degré un taux moyen de 46 à 50%. De taux de participation de parents, donc dans le premier degré. Au second degré, on arrive à peu près à un tiers des parents donc, qui participent donc aux opérations de vote. Alors, par rapport à ça, donc déjà, voilà, on observe une rupture, déjà un éloignement des familles dans cet acte de participer à la vie de l'établissement et de faire cet acte donc, citoyen de vote. Même si on a constaté que des mesures avaient été mises en place pour permettre à chaque parent d'avoir accès aux élections. Voilà, vous parliez par exemple des familles monoparentales. Voilà, il y a eu réellement un effort qui a été fait pour que chaque parent soit destinataire du matériel de vote, que le vote puisse se faire par correspondance, etc. Mais visiblement, voilà, ça ne suffit pas pour pallier, si vous voulez, cette rupture que l'on observe entre le premier et le second degré. Donc il y a, ça appelle certainement à une autre réflexion. Donc, le fait que dans le premier degré, on est conscient que la proximité géographique des parents, voilà, le fait que l'enfant, voilà, en bas âge, voilà, on l'encadre de façon plus étroite, alors qu'après on cherche à l'autonomie, sont des éléments aussi qui ont été qui ont été avancés pour expliquer cette rupture qui est quand même relativement brutale. Donc voilà le premier point sur, sur les élections. Le deuxième point sur le conseil d'administration, ce qui me semble intéressant à observer, c'est, si vous voulez, la place des parents et notamment l'exercice du pouvoir dans les décisions qui sont prises en conseil d'administration. Alors ça relève évidemment du second degré, exclusivement, hein, parce que bon, je m'intéresse pas trop à la question du conseil d'école, parce que voilà, j'ai pas. Voilà, donc c'est bien, merci. Ce que je voulais voir, c'est par rapport à ça, c'est notamment d'une part l'évolution depuis le décret du 30 août 85 qui a fixé, si vous voulez, la composition du conseil d'administration jusqu'à aujourd'hui, hein, donc du 8 avril, comment a évolué cette composition et quelle est la part, notamment la place des parents par rapport à cette composition. Alors la composition a très très peu évolué en fait, et notamment la répartition, hein, puisqu'on est toujours sur un principe tripartite, hein, même s'il y a beaucoup de spécificités, c'est dommage que je ne puisse pas le montrer, mais bon, je vais juste le décrire rapidement, entre le lycée, notamment, le lycée professionnel, le collège, et ensuite donc le collège qui a moins de 600 élèves. Voilà, déjà, si vous voulez, on peut avoir des spécificités qui montrent une répartition différente des membres qui constituent le conseil d'administration. Ce qui fait que, à travers ça, la place des parents a un poids différent, si vous voulez. Donc si on part par exemple de la configuration de base, hein, on peut observer que l'usager parent représente, si vous voulez, un poids de 50% dans la part des usagers. C'est-à-dire qu'au niveau du lycée, on est à part égale entre représentants des élèves et représentants des parents. Au niveau des collèges, on est dans une représentation de 70% et donc 30% pour les élèves. Donc déjà, si vous voulez, en termes de représentants entre collège et lycée, vous voyez, les parents voilà, ont une part qui est différente. Ensuite, il y a des spécificités, comme je disais, par rapport à aux membres qui constituent donc la composition du conseil d'administration. Si on compare la part des parents par rapport au personnel de l'établissement, donc tout confondu, personnel de direction, personnel d'enseignement, d'éducation, etc. Dans le lycée, les parents représentent 33% des personnels. Dans le collège, ils représentent 47%. Vous voyez ? Donc c'est la moitié en termes de représentativité. Et ensuite, il peut y avoir, si vous voulez, des quelques particularités, notamment quand l'établissement n'a pas d'adjoint, quand l'établissement n'a pas de CPE, ou quand il n'a pas les deux, voyez, ou quand il n'y a pas de directeur de SECPA. Voyez. Donc là, ce qui fait qu'il y a des membres de l'administration qui sont en nombre moins présents. Et donc on arrive en fait à les parents représentent 60% des personnels, voilà, dans des configurations où il n'y a pas de CPE, pas d'adjoint et pas de directeur de SECPA. Ce qui est souvent le cas, notamment dans le secteur rural, par exemple. Vous voyez, dans les établissements de petite taille. Voilà. Donc c'est pas rien. Hein, j'ai pas eu le temps de préparer pour mesurer ce que ça représenterait sur une académie, mais bon, ça serait intéressant de voir. Mais je sais que c'est des questions qui nous sont souvent interrogées, qui nous sont souvent posées, hein, notamment comment fait-on quant au quorum, quant notamment à la désignation des membres, quand voilà, il n'y a pas toutes les personnes. Donc voilà ce que je pouvais dire donc de la place des parents dans le conseil d'administration. Donc je parlerai pas des enjeux. Ah oui, donc si, je parlerai des enjeux parce que ce qui est intéressant de voir, c'est après les compétences du conseil d'administration. Comment ont-elles évolué? Donc c'est pareil, je veux dire, par rapport au décret initial, on peut constater que le nombre de compétences du conseil d'administration a plus que doublé. Ça paraît étonnant, mais déjà, en termes de nombre, le conseil d'administration délibère sur beaucoup plus d'objets que initialement c'était prévu. Déjà. Alors, pourquoi? Parce que déjà, d'une part, il y a l'articulation entre les codes, si vous voulez, qui fait que ça modifie les codes de l'éducation, mais il y a également eu des réformes concernant, par exemple, l'adoption du règlement intérieur, concernant la place, le projet notamment par exemple par rapport aux parents qui maintenant est porté au vote en délibération dans le conseil d'administration, voyez. Donc il y a eu des évolutions qui font que maintenant on a des nouveaux actes qui nécessitent donc une délibération, une adoption en conseil d'administration. Donc déjà en termes de nombre de compétences, elles ont nettement évolué. Et ensuite en termes de complexité, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les compétences dans lesquelles le conseil d'administration doit délibérer sont très complexes. Alors je vais vous en lire une par exemple, parce que ce sont des facteurs par rapport, je pense, aux usagers qui sont à prendre en compte. Alors, même pas forcément les usagers, même pour nous, quand on préside le conseil d'administration, même par rapport à notre propre personnel, quelque part, ça devient compliqué d'expliquer sur quoi reposent donc souvent les actes. Hein. Mais par exemple, on dit le conseil d'administration donne son accord sur la passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée, conformément au deuxième article R421-60, en cas d'urgence des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements, des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement. Donc vous voyez qu'on rentre quand même dans des objets qui ont une complexité et qui méritent vraiment une expertise particulière. Donc on rentre réellement dans, un, la multiplication des actes, et deux, dans la complexité des actes, qui rendent évidemment l'accès difficile, même pour non pas que les usagers par un représentant, mais également le personnel. Donc ça amène, c'est vrai, la question... la place des parents, qui fait que par souvenir, parce que là j'ai pas d'éléments autres à vous apporter, mais qui nécessite, et il y a un travail qui est fait pour pouvoir expliquer, expliciter, présenter ce dont il s'agit quand devoir délibérer. Je me rappelle que les chefs d'établissement où on a fait des présentations en amont durant les instances de commission permanente ou groupe de travail pour expliquer le budget, comment les principes budgétaires et comment se compose un compte financier public, etc. Donc il y a eu réellement des efforts qui sont faits. Bon, pour autant, la question reste posée. Réellement l'appropriation de ces compétences sur lesquelles ça repense. Il y a des objets qui sont tout à fait d'accès facile, les voyages scolaires, le règlement intérieur, le plan de prévoyance, le plan de prévention de la violence, etc. Bon, où réellement, je pense qu'il y a des coopérations qui peuvent s'installer. C'est clair. Malgré tout, c'est vrai que le conseil d'administration est le lieu d'enjeu, souvent, qui dépasse le cadre de l'intérêt de l'établissement scolaire. Quand en effet ça relève de décisions de politique nationale, donc budgétaire, de ressources humaines, il est évident qu'à un moment donné, il y a des enjeux qui dépassent le cadre des débats et qui peuvent en effet rendre l'exercice difficile et en effet faire qu'à un moment donné il y ait réellement une confrontation qui s'installe. Mais ça peut être aussi le cas dans des enjeux territoriaux très locaux. Par exemple, dans la composition du conseil d'administration, il y a la présence donc d'élus de la commune dans lequel se trouve donc l'établissement et la collectivité de rattachement. Et il peut y avoir des enjeux déjà différents entre ces différents membres et il peut y avoir des partis pris là-dessus qui font que ça rend ça peut parasiter également les enjeux liés à l'établissement. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le conseil d'administration. Donc le troisième point, c'est sur le conseil de discipline. Alors pour faire rapidement court, il y a trois observations que je peux apporter par rapport déjà à ce que vous avez pu aborder. Alors je vais essayer d'être clair parce que j'ai pas eu le temps de préparer, donc ça risque d'être un petit peu ça risque de manquer de clarté. Donc d'abord pour rappeler que si vous voulez le conseil de discipline s'est installé notamment dans le cadre de la réforme des procédures disciplinaires. À l'époque où il y a eu des assises sur la violence et l'état de la violence, qui ont eu pour objet, pour but, plusieurs points. D'abord, d'unifier, si vous voulez, les pratiques en matière disciplinaire. paraissait important hein, que voilà, il y ait des pratiques, des usages différents. Donc c'était le premier point. Le deuxième point, c'était de garantir leurs droits aux usagers, hein, et notamment le droit à la défense. Hein, exprimer sa défense, hein, notamment dans des procédures contradictoires. Le droit de recours, également. Hein, vous avez parlé tout à l'heure, en effet, des commissions d'appel. Le droit d'accès aux données. Hein, voilà. En effet, voilà, la constitution d'un dossier hein, pour lequel on doit examiner des faits hein, est un droit hein, que l'on doit veiller de garantir aux parents. Ensuite, c'est également aussi de lutter contre les faits de violence. Et notamment par le fait que le conseil de discipline relève également d'une procédure automatique dès lors qu'il s'agit de violences physiques vis-à-vis du personnel. Donc là, il y a eu réellement aussi hein, cet aspect des choses. Donc voilà un petit peu dans quoi peut s'inscrivait, si vous voulez, en 2011, la réforme des procédures disciplinaires, dans lesquelles s'est inscrit donc, la procédure, hein, dont on a parlé tout à l'heure de procédure, hein, M. Zéphir donc expliquait un petit peu tout cela, et puis vous l'avez échangé, donc s'inscrit cette procédure. Mais après, évidemment, il y a les usages hein, qui font que, bon, voilà, on peut avoir, en effet, des démarches différentes. Alors, qu'est-ce que l'on peut observer aujourd'hui en termes de bilan sur les conseils de discipline? Alors, je vais reprendre, si vous voulez, des éléments académiques, mais qui sont comparables au niveau national. Bon, d'abord, il y a une forte corrélation entre le nombre de conseils de discipline et le nombre d'exclusions définitives. Que l'on compare, nous, à notre niveau académique, au niveau des quatre départements, au niveau du type d'établissement, on peut tracer une ligne droite entre nombre d'exclusions définitives, nombre de conseils de discipline et nombre d'exclusions définitives. C'est-à-dire qu'on peut avoir prévoir à l'avance quelle est l'issue hein, du conseil de discipline quand on a le nombre de conseils de discipline voilà, dans un établissement scolaire. Alors c'est le cas dans une académie, mais c'est le cas également, c'est le constat qu'on fait au niveau national. Hein, c'est-à-dire que si on prend les résultats des académies, on a exactement la même ligne dans lesquelles s'inscrivent, si vous voulez, ces graphiques. Déjà, c'est voilà, le premier point qui est relevé. Ensuite, le deuxième point, c'est que on a essentiellement des garçons hein, qui sont concernés par les faits d'indiscipline et qui sont sanctionnés. Bon, ça, c'est pas forcément une nouveauté, mais en tous les cas, voilà, c'était pour reprendre qu'il y avait clairement peut-être à réfléchir sur l'aspect catégorisation hein, dont vous que vous abordiez précédemment. Par type d'établissement, si on observe maintenant par type d'établissement ce que cela donne, on s'aperçoit que c'est peut-être au collège où, en effet, il y a le nombre de conseils de discipline le plus important, mais il faut dire que c'est là où il y a le nombre d'élèves le plus important. Mais quand on ramène à 1000 élèves par type d'établissement, en fait, c'est au lycée professionnel où réellement il y a un nombre important de conseils de discipline. Ça donne à peu près 15 conseils de discipline pour 1000 élèves. On a à peu près le taux pour les lycées professionnels. Ce qui est inquiétant, c'est que quand on regarde les EREA, qui sont des établissements régionaux d'enseignement adapté, on a également un fort taux de conseils de discipline. Vous voyez, donc on parlait de la problématique du handicap tout à l'heure. Hein. Donc il y a également un processus là-dessus qui interroge sur les EREA. Alors les EREA, je ne le rentre pas trop dans les statistiques parce que ça représente très très peu d'élèves. Hein. Voilà, un EREA, c'est peut-être 60 élèves, il y en a 3-4 dans chaque académie. Donc voilà, c'est pas, on ne peut pas l'intégrer si vous voulez le comparer à tous les autres. Le dernier point sur les conseils de discipline, c'est sur les motifs. Hein, je disais qu'il y avait une procédure automatique liée à la saisine du conseil de discipline. En fait, ça représente 9% des faits qui sont traités, donc finalement c'est assez mineur, pour des motifs globalement qui relèvent de violence physique, violence verbale et absentéisme. Voilà les trois grands motifs, si vous voulez, qu'on retrouve. Alors là, c'est au niveau académique, j'ai pas de données chiffrées au niveau national, mais bon, je serais pas surpris que voilà, on soit à peu près dans cela. Par contre, c'est vrai que ça relève de motifs qui concerne des victimes en tant que personnel. C'est-à-dire que dans tous les faits qui sont examinés au conseil de discipline, c'est souvent donc les faits dont les personnels sont victimes. on a parlé du sursis. Le sursis, en effet, est, fait partie des sanctions hein, des, qui sont rendues par les conseils de discipline. Bon, dans une moindre, dans une proportion assez relativement faible, hein, puisque voilà, on a à peu près, pour nous ce qui nous concerne, 170 exclusions avec sursis sur 950 conseils de discipline. Donc vous voyez que ça représente une part très faible. Et je pense que là-dessus, on est dans le même cas. Hein, au niveau national. Il y a également une question sur, si vous voulez, la gradation des sanctions, puisque quelque part, il y a une corrélation entre le nombre de conseils de discipline et l'exclusion définitive. Donc ça veut dire que l'échelle des sanctions n'est clairement pas utilisée hein, à son plein. Donc c'est en cela que, si vous voulez, une nouvelle, un nouveau décret donc, a, si vous voulez, modifier les procédures disciplinaires dernièrement, qui vise justement à répartir les compétences du chef d'établissement, à mieux répartir les compétences entre le chef d'établissement et les conseils de discipline. Et notamment par une mesure d'interdiction d'accès à l'établissement. Et c'est une mesure qui est très complexe à mettre en place, c'est-à-dire que pour des faits dont le chef d'établissement apprécie hein, voilà, les conséquences pour voilà, la sérénité, la sécurité de l'établissement, il peut interdire à l'accès à l'établissement d'un élève. En attendant qu'ils comparaissent devant donc, l'instance disciplinaire. Et jusqu'à présent, c'était une seule possibilité dans le cadre du conseil de discipline. Maintenant, ça a été élargi, si vous voulez. Enfin, on est revenu, parce qu'initialement, c'était possible. On est revenu sur les possibilités que le chef d'établissement puisse voilà, l'utiliser, enfin, en tout cas, s'appuyer sur cela dans des cas extrêmes. Ce qui fait qu'on n'est plus obligé de saisir le conseil de discipline si l'on veut. Voilà, appliquer une mesure d'interdiction d'accès à l'établissement. Alors c'est depuis septembre cette année, et c'est vrai que nous on a constaté que déjà il y avait une baisse du nombre de conseils de discipline, donc réellement ça a produit ses effets. Comme quoi en effet, voilà, certaines règles voilà, ont pu produire cet effet. Voilà, après il y a d'autres peut-être éléments hein, qui peuvent intéresser la réflexion. Je terminerai par le conseil de discipline pour dire que quelle est la place des parents dans le conseil de discipline. Alors, je ne parlerai pas de l'usager hein, qui est parent, dont l'élève comparé. Alors, quand il est mineur, hein, bon, faut se rappeler que quand il est majeur, hein, c'est l'élève qui est convoqué. Hein. En général, nous, on observe que malgré tout, même quand il est majeur, il se fait assister hein, de ses parents. Enfin, au moins d'un. Sur la place des parents représentants, donc, dans cette instance, hein, ils sont... Sur un nombre de 14 membres, ils sont 3 hein, donc au collège et 2 hein, au lycée, en fait, dans la théorie. Mais dans la pratique, il y a beaucoup hein, après de cas hein, différents, hein, suivant en effet bon, le nombre de postes qu'il y a dans l'établissement, qui sont pourvus dans l'établissement, d'adjoints, CPE, etc. Hein, on peut avoir des conseils de discipline qui représentent 11 membres. Hein, puisque c'est à peu près le quorum minimum, je crois, au niveau de notre académie de 6. Donc il me semble que c'était 11. Et donc en effet, là, ben, la place du parent peut avoir plus de poids, bon, d'une part. Mais d'autre part, ce qui pourrait se jouer par expérience, hein, voilà, mais sans prétention, c'est souvent la question des valeurs hein, autour. Hein, des décisions qui sont prises autour des faits hein, qui sont examinés. Et notamment les valeurs par rapport à la sanction. Alors, je crois que vous l'avez abordé tout à l'heure dans les échanges, mais c'est vrai que le sens de la sanction, il n'est pas forcément clairement partagé dès le départ entre les différents membres du conseil de discipline. Et ce qui fait que finalement, le chef d'établissement, souvent, en effet, il n'a pas forcément, maîtrise pas l'issue du conseil de discipline. Hein, en tous les cas... On en est, voilà, ça peut être une explication hein, sur cette issue hein, fatale, souvent, qui fait que, clairement, quel sens il faut donner à la sanction pour des personnels et pour des usagers hein, qui participent à la même instance. Voilà. Et en effet, je me souviens avoir travaillé là-dessus parce que dans l'établissement, on s'est posé la question et se dire, voilà... tous les personnels d'éducation, d'enseignement, voilà, qu'est-ce que représente pour vous la sanction? Est-ce que c'est parce que la sanction est forte que nécessairement elle fait modifier, voilà, ou elle corrige les attitudes comme voilà, on entendait, ou est-ce que réellement c'est plus voilà, l'accompagnement qui va, la nature éducative de la sanction qui va produire ces effets. Voilà. Donc c'est là-dessus que je veux dire, notre réflexion avait porté au moment où en effet voilà, on se retrouvait finalement dos à dos entre voilà, les personnes qui ne partageaient pas les mêmes valeurs.
Donc moi je vais intervenir donc, sur le conseil d'école plus particulièrement, donc, qui intéresse le premier degré, et la question de l'équipe éducative également. Donc conseil d'école, donc, je vais chaque fois entrer par ce qui est annoncé comme enjeu, qu'on retrouve à la fois dans les textes, mais et en observation, ce qu'on voit en réalité sur le terrain, qui est étayé avec quelques exemples. Ma position, donc, c'est une position d'observateur d'IEN qui, en général, reçoit les comptes rendus de conseil d'école où il participe. On est de droit participant au conseil d'école. Mais également, par rapport à ce que vous avez dit, l'idée n'est pas de se positionner en faux, mais plutôt de dire, voilà, il existe plusieurs manières de faire, certes, mais en général, de manière assez globale, on retrouve un certain nombre de, malheureusement, de stéréotypes autour du conseil d'école. Donc, une note de service de 2014 qui dit que le conseil d'école et le conseil d'administration sont des instances dans lesquelles les représentants des parents d'élèves peuvent s'impliquer dans la vie d'établissement, d'enseignement scolaire, en lien avec les autres membres de la communauté éducative. Alors, c'est une participation collective, c'est une manière de dire aux parents qu'ils participent au système éducatif, puisqu'ils participent au conseil d'école, une participation collective, puisqu'il y a un parent par classe, donc on peut imaginer qu'ils sont en égalité numérique face au nombre d'enseignants dans l'éducation nationale, mais également une instance tripartite, puisqu'on a les représentants de la mairie qui sont là. Voilà. On va s'arrêter là, on va revenir sur cette question après. Les parents délégués des parents d'élèves qui sont élus, donc normalement légitimes, soit parce qu'ils appartiennent à une association fédérée, qui appartient à une fédération, soit une association, soit un comité de parents d'élèves, c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, à savoir qu'au premier degré, on a plutôt des comités de parents d'élèves, donc une idée de proximité, mais a priori une légitimité puisqu'ils sont élus. Ensuite, normalement, comme il y a un ordre du jour, la liste des sujets qui seront abordés sont connus en amont et devraient permettre une préparation, une prise de connaissance en amont. Ensuite, ce conseil d'école, il relève du droit collectif et devrait permettre une mise à distance, et on demande à ces parents délégués de relayer les informations à l'ensemble des parents d'élèves fréquentant l'école. Alors, qu'est-ce que mes observations et mes lectures des PV me laissent dire? C'est que, déjà, en termes de représentativité, on n'y est pas tout à fait, puisque souvent, les parents élus le sont par une majorité très relative, et souvent peu représentative de la population, du public qui fréquente l'école. Alors que ce soit au point de vue national, puisqu'on a quand même 45-86% de votants cette année, hein, pour l'année 2014-2015, ce qui dénote d'une régression de moins 0,17 points par rapport à 2013. Et depuis de nombreuses années, le chiffre décroît. Ça, c'est une question. Pourquoi il y a de moins en moins de votes, même au premier degré ? Sur l'Académie de Guadeloupe, par exemple, on a 124 802 inscrits. Et on a eu un taux de participation de 32,21%. Donc, je suppose que si on va dans des territoires ruraux, on peut dire « Ah, c'est parce que c'est proche, les gens vont systématiquement voter ». C'est pas sûr. Donc, les parents délégués ne sont pas toujours représentatifs d'une majorité des parents qui fréquentent l'école.
Mais comme les élus, hein, d'habitude.
Alors, il est rare que les parents délégués se consultent en amont. Je n'ai jamais entendu. J'ai moi-même été... dans ma famille, il y a eu des parents délégués. Jamais entendu de parents délégués qui avaient une réunion en amont pour travailler l'ordre du jour du conseil d'école. C'est rare. Ça existe, hein, peut-être. Mais c'est rare parce que souvent, ils ont les documents assez tardivement. Ils n'ont pas accès aux différents dossiers. Et tout au moins, pas sous une forme qui leur permette de se les approprier et d'en discuter. Ce qui fait que dans les conseils d'école, on est plus dans une instance où on informe les parents. C'est beaucoup moins une instance d'échange. Et ça va jusqu'à une sorte de connivence. Alors, c'est très observé. Je vais vous donner quelques exemples. Une connivence entre une sorte de jeu de rôle entre les enseignants et les parents élus qui viennent porter ou renforcer une parole que souvent les directeurs d'école ou les équipes pédagogiques veulent transmettre aux municipalités. Alors, par exemple... On a eu, prenons l'exemple, un PV d'un conseil d'école de rentrée. La directrice met la fontaine en lien avec le projet Récréa Fruits n'a jamais été posée. Les élèves qui déjeunent au réfectoire sont plus nombreux cette année. Il n'y a qu'un seul service. Les PAI ne sont toujours pas signés par la municipalité. Le réfrigérateur est défectueux. Il n'a pas été changé. La conservation des médicaments n'est pas fiable. Il n'y a pas de policiers pour faire traverser les élèves. Il faudrait retracer le passage piéton. Donc souvent, les parents viennent en appui de ces demandes et viennent là jouer leur rôle. Ils sont un peu les instruments des parents délégués entre les mains des équipes pédagogiques. Ils peuvent être même un instrument entre les mains des équipes pédagogiques vis-à-vis de la hiérarchie de l'institution. Par exemple, un petit exemple, une équipe qui dit « Nous avons des élèves porteurs, enfin, qui ont des difficultés scolaires très importantes. Nous n'avons plus cette année le maître E qui normalement devait nous être assigné. Et donc, du coup, nous ne pourrons pas prendre en charge les élèves de l'école qui présentent de grandes difficultés. » Donc là, on est sur vraiment une sorte d'instrumentalisation et c'est pas un seul. Je vous ai pris celui-là, mais je vous en prendrai 20. Vous trouverez les mêmes PV, les mêmes remarques. Une sorte d'instrumentalisation et une connivence a priori qui fait que souvent les parents sont délégués, sont instrumentalisés par l'équipe pédagogique. Ensuite, on leur fait part aussi quand même du projet d'école, et ça, je suis d'accord avec vous. Il est rare que les parents d'élèves participent à l'élaboration, tout au moins qu'il y ait un échange autour des priorités du projet d'école. C'est extrêmement rare. Je ne sais pas s'il y a des enseignants, des conseillers pédagogiques ou qui sont dans la salle qui ont déjà entendu ou vu ce genre de choses. C'est très, très rare. Et de ce fait, ils n'ont pas vraiment, si vous voulez, ils n'ont pas l'occasion de faire des propositions. Et quand j'entends depuis les 3 jours qui se sont déroulés les interventions fort pertinentes des parents d'élèves, je pense qu'on gagnerait à échanger. Il ne s'agit pas de perdre en professionnalité parce que, comme disait un parent, il y a peut-être une crainte de perdre la main sur certains sujets de la part des équipes. Et c'est peut-être un peu dommage parce qu'il y a de vraies idées, de vraies propositions qui pourraient être proposées par les parents s'ils participaient en amont à la préparation de ce conseil d'école qui devient souvent une instance vraiment de quémandeur. Hein, on demande à la mairie, on fait savoir son mécontentement, les parents viennent en appui et donc le PV est remonté et donne parfois lieu, ces conseils d'école, à des mobilisations tout simplement. Des mobilisations de parents et donc on acerbe un peu les passions. On est toujours sur le registre de la passion qui peut dominer et qui va au-delà des vrais problèmes à traiter. Donc, ce qu'on retrouve aussi dans les conseils d'administration. Alors, en ce qui concerne l'équipe éducative, alors après, c'est vrai que j'ai pensé à quelques perspectives qui pourraient nous aider à mieux appréhender cette question des conseils d'école. Mais je vais en parler tout à l'heure. Donc, l'équipe éducative, par contre, c'est une autre instance. Elle n'est pas, c'est pas une instance administrative, c'est une instance fonctionnelle qui n'a pas du tout le même rôle que le conseil de discipline. D'après le décret, c'est une instance fonctionnelle, c'est un outil de travail qui permet une concertation entre tous les adultes concernés par la situation d'un enfant. Elle est réunie à l'initiative du directeur. Elle doit permettre l'analyse de la situation personnelle et concrète. Alors, je dis bien les mots qui sont dits dans le décret d'un enfant à l'école sans être transformée en instance disciplinaire. Lieu de parole, d'échange et d'écoute, la réunion de l'équipe éducative ne constitue pas nécessairement un lieu de prise de décision. Donc, or, souvent, nous avons des comptes rendus d'équipe éducative où il y a à la fin, prise de décision, on voit qu'il y a une décision qui est prise et qui parfois ne laissent pas toujours des portes ouvertes. Alors ça dépend, hein, je ne suis pas là dans la généralité, il y a parfois des temps, on propose une deuxième analyse après un temps de latence, mais en général, c'est vrai que ça a un caractère de décision. C'est à partir des conclusions de cette équipe que des initiatives et des décisions, donc après, posteriori, pourront être prises, sans engager nécessairement la responsabilité de tous ses membres. Elle doit absolument être réunie avant toute orientation, notamment des orientations relevant d'élèves porteurs à besoins particuliers, on va dire. Et donc, d'une manière générale, la présence des parents est indispensable au bon déroulement du dialogue. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est que nous avons parlé tout à l'heure des textes et les parents l'ont fait savoir aussi, qu'il y a des textes qui existent et que souvent, on marche un peu à côté des textes ou on les réinterprète. Je pense qu'un des leviers, justement, serait de se pencher sur ce que disent ces textes et ce qu'on en entend. Mais ça, je vais revenir tout à l'heure. Ensuite, comme pour la première, s'il y a une participation du parent, mais elle est individuelle. Et donc, on attend à ce que ce dialogue il soit plutôt confidentiel, puisque le parent est seul, il traite du cas de son enfant. Pourtant, je vais vous faire part d'une situation que nous avons vécue dans une école dernièrement, qui est très perturbante, parce qu'en fait, elle dit à la fois tout ce que l'équipe éducative permet de faire et tout ce qu'elle nous a empêché de faire, parce que, un peu comme pour le conseil de discipline, nous sommes arrivés avec un certain nombre, autant que nous étions, autour de la table, à savoir le médecin scolaire, l'assistante sociale, le parent d'élève, le psychologue scolaire, le directeur d'école, l'enseignant de la classe et moi-même. Nous étions tout ça sur un cas très compliqué, très difficile, d'un enfant qui désorientait tout le monde, même les médecins spécialisés. Et pourtant, quand le parent est arrivé, elle s'est présentée avec deux autres personnes, donc une amie et un délégué de parents d'élèves. Et tout de suite, ça nous a laissé entendre que ce parent attendait un jugement, donc se sentait mis en difficulté par cette demande d'équipe éducative. Pourtant, il y avait eu un certain nombre d'échanges, mais qui, après coup, avec le recul, un peu comme le chef d'établissement tout à l'heure, cette attitude m'a montré que les discussions antérieures avaient été largement insuffisantes et n'avaient pas été suffisamment explicites pour traiter le problème au cœur. Si bien que ce parent n'acceptait pas cette équipe éducative pour ce qu'elle devait être, une instance d'échange pour trouver une solution. Et ça s'est ressenti tout au long de l'équipe éducative où il a fallu sans arrêt recentrer, réexpliquer les choses parce qu'elle était parfois au bord de l'exaspération, elle se sentait mise en accusation, elle utilisait des arguments qui étaient en plus en sa défaveur parce qu'elle disait « je ne peux pas garder cet enfant, je dois aller travailler ». Face à la difficulté de son enfant, pour nous c'était incohérent ces propos-là, mais a posteriori on comprend, c'était une sorte de manière de se protéger, une protection. Mais toute la difficulté de cette équipe éducative, elle est venue, je pense, du manque de travail en amont. Parce que c'est vrai aussi, comme disait monsieur, ce n'est pas volontaire. Et ça, je m'adresse aux parents. Nous sommes pris aussi en étau, en tension, entre l'urgence de la situation. Cet enfant ne pouvait pas rester, ne pouvait pas être déscolarisé. Pendant, on n'a pas le droit. Et en même temps, son cas est suffisamment grave pour être traité dans l'urgence. Donc, vous voyez, c'est ça aussi, c'est comment parfois, même les instances institutionnelles, les propositions ne donnent pas tout à fait toutes les réponses parce qu'il y a autre chose, des procédures, vous avez parlé de processus, de process, dont on n'est pas toujours tout à fait les tenants, on ne les a pas, on ne les maîtrise pas. Et on arrive à des applications un peu simplistes parce qu'on ne peut pas faire mieux, on ne sait pas faire mieux. Donc, dans ce cadre-là, je pense que de manière plus générale, parce que je ne voudrais pas déborder plus que ça, je veux bien qu'on échange, c'est qu'il y a nécessité aussi pour nous, par exemple les IEN, dans le cas des conseils d'école, par exemple, et plus largement de tout ce qui nécessite une relation avec les parents, d'être au clair déjà, nous, entre les IEN et les directeurs d'école, sur ce que sous-entendent l'application de ces instructions. Être bien et ce que ça implique en termes d'attente, quand les parents les lisent eux-mêmes, notamment les délégués de parents d'élèves, ils ont des attentes par rapport à ces textes qu'ils en comprennent. Et ce que nous, ce que l'Éducation nationale en comprend et les acteurs de terrain en comprennent. Donc là, il y a quelque chose qui se noue et il est important que ça soit clarifié. Ensuite, donc, comment on peut opérationnaliser ces instructions, ces préconisations? Quelles adaptations que ça demande également du point de vue des enseignants, parce que les enseignants aussi doivent considérer ces instances. Souvent, elles sont considérées comme périphériques à leur métier, alors qu'elles participent de leur professionnalité. Je peux vous assurer que si je fais une enquête aujourd'hui sur tous les enseignants et que je leur demande précisément ce que c'est qu'un conseil d'école, qui y va, qu'est-ce qu'on y fait, de quoi on peut parler durant ce conseil d'école, et une équipe éducative, ça sert à quoi, etc. Je suis sûre qu'on tape à côté pour une grande majorité. Donc il y a vraiment une connaissance, et je suis sûre qu'au second degré, c'est pire, on en parlait dernièrement, où il y a, grâce à la partie CPE éducatif, il y a vraiment une dichotomie entre ce qui relève de l'apprentissage, et le chercheur en a parlé ce matin, on a ce manque de pédagogie, on traite les questions éducatives, les questions de climat scolaire, en aparté de la question pédagogique et de l'enseignement. Donc ça joue également. Quel accompagnement des acteurs, mais ça c'est bien pourquoi nous sommes là ce matin. Et puis moi je me dis tout le temps, parce que je l'ai vécu dans toute mon expérience professionnelle d'enseignante, puis de conseillère pédagogique et maintenant d'IEN depuis maintenant 6 ans, c'est de se garder des fausses évidences. On l'a dit, on l'a redit, il y a des choses qui pour vous sont évidentes, mais c'est bien pour ça qu'ils ne sont pas là, c'est bien pour ça qu'ils ne disent pas ça, c'est bien pour ça que l'élève fait ça, et ces évidences elles parasitent énormément notre jugement. Et je pense qu'au-delà de choses convenues, c'est garder cette posture de vigilance et se dire attention à cette tendance à prendre des choses au pied de comme on les voit, d'avoir cette prise de recul systématique. Et voilà, c'est se garantir aussi d'être dans des interprétations du prescrit, parce que vous avez dit que ça, je suis pas tout à fait d'accord, que les textes sont clairs, ils sont clairement écrits, mais ils ne sont pas clairs pour tous. Et donc ils sont clairs, c'est vrai, ce qu'ils disent est clair, mais il n'est pas, souvent les gens interprètent et ne prennent pas le temps de lire et de comprendre les mots. J'avais une formatrice qui était très à cheval sur la question du vocabulaire, de la sémantique, et je crois qu'elle a tout à fait raison. Donc voilà, je veux surtout dire que moi, si j'ai une expérience et un retour d'expérience à faire, c'est cette nécessité d'être toujours un peu attention, d'être dans la vigilance et de prendre du recul sur les situations. Voilà.
Merci. Moi, je voudrais juste revenir sur le rôle des parents d'élèves. Alors, bien sûr, maintenant, je suis professionnelle, mais j'ai aussi été parent d'élève, enfin, comme plein de gens, voilà, comme tout le monde. Je suis juste surprise par rapport au enfin, on parle de collège, donc, hein, dans les conseils d'administration, vous êtes tenu d'avoir les documents 10 jours avant, convocation et 10 jours. Si vous ne les avez pas, vous pouvez faire casser le conseil de le CA, on est bien d'accord? Non, enfin, je m'adresse au chef d'établissement, pour moi, c'est ça. C'est obligatoire. Vous devez les avoir. Vous devez avoir et la convocation et tous les documents avant. Alors, voilà. Je crois que c'est 10 jours, hein, 10 jours avant, parce qu'on s'était heurté, nous, avec un principal. En tant qu'enseignant, on ne les avait pas non plus. Et on a été dire, mais écoutez, la prochaine fois, on fera remarquer, et on peut le faire noter dans le compte-rendu du CA. On avait aussi un problème de compte-rendu du CA où on ne s'y retrouvait pas. Donc on a été voir notre direction, et maintenant, bah, c'est resté. On le fait tourner. Alors c'est pas toujours facile pour les parents d'élèves, mais une fois c'est donc la direction, le secrétaire qui prend le compte rendu, une fois c'est les parents d'élèves, et la troisième fois ce sont les enseignants. On le fait tourner, et du coup, bah forcément après ça remonte, c'est du travail, mais vous pouvez faire apparaître les débats, de même que quand vous avez le compte rendu, il est voté au CA d'après. Si vous n'êtes pas d'accord, vous devez signaler que là vous aimeriez bien que les débats qui ont eu lieu soient notés. C'est très important, en fait, ça remonte. Et ça, c'est votre droit, il faut le prendre.
Ne vous inquiétez pas, on est tout à fait au courant de nos droits.
Ah ben, je n'avais pas compris comme ça.
On est tout à fait au courant. Je vous ai bien fait remonter, on va dire, ce qui se passe dans le département. C'est-à-dire que moi, bien sûr que je suis au courant de ça. Mais moi, quand je suis allée lire les comptes rendus des années précédentes, parce que j'aime bien savoir ce qui s'est passé, par contre, je n'ai eu aucune information sur ces débats. C'est, depuis que j'y suis, les comptes rendus ont complètement changé.
D'accord.
Mais tout le monde n'a pas cette approche, tout le monde n'a pas cette connaissance. Et moi, je sais que quand je forme des parents, j'en ai entre 12 et 20 sur le conseil d'administration en face de moi. Par rapport au nombre d'élus dans les conseils d'administration, c'est pas grand-chose. Ceux-là vont effectivement après avancer là-dessus. Mais en tout cas, sur les textes, sur les documents qu'on a, alors là, de temps en temps, il faut vraiment se battre. Et on a l'impression de se battre un peu contre les moulins, tout de même. Il y a des moments où on se prend un peu pour Don Quichotte. Parce que vraiment, tous ces documents qu'on devrait avoir avant, c'est rare. Mais je dis pas, moi j'y arrive, mais c'est parce que je suis pas toujours très gentille. C'est parce qu'il y a des moments où je tape le poing très fort et que j'apporte les tests et que je leur mets devant les yeux. Mais tout le monde n'a pas une attitude comme ça.
D'accord.
Hein? Je veux dire, voilà, tout le monde n'a pas une assurance parce que moi, ça fait 20 ans que je suis parent d'élève. Donc en 20 ans, on arrive à avoir de l'expérience. Moi, je vais bientôt, à la limite, je vais maintenant quitter le système scolaire avec toute mon expérience. Oui. C'est presque dommage. Mais c'est comme ça, c'est la loi de notre fédération.
Mais voilà, vous êtes élue.
Mais je suis élue, mais...
Et parce que je crois que vous parliez de légitimité tout à l'heure. Oui, vous êtes légitime, vous êtes élu, on l'a bien dit, mais vous avez vraiment toute votre place à prendre.
Ah, mais.
Donc, voilà.
On est complètement d'accord.
Comme vous disiez, ce n'est pas si simple de prendre cette place-là, et c'est au fur et à mesure des années qu'on apprend à la prendre.
Et je dirais que c'est même pour ça que souvent dans les conseils d'école, parce qu'on débute, souvent, à moins vraiment que ce soit notre 8e enfant et qu'on ait déjà une expérience incroyable. Mais souvent, quand on arrive au conseil d'école, on débute et c'est là où c'est très, très compliqué. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai mon père qui était déjà à la FCPE. Donc, je suis arrivée tout de suite en conseil d'école connaissant les textes. Mais tout le monde n'a pas un passé, on va dire, même au niveau de ses parents militants. Mais c'est très, très compliqué et je vous rejoins. C'est vrai qu'on est souvent pris en otage en tant que parent d'élève. On est souvent instrumentalisé, et ça, c'est souvent des remontées que j'ai au niveau des parents qui sont dans les conseils d'école. Et ça, un petit peu moins, après, dans les conseils d'administration, sauf quand il s'agit souvent des dotations horaires globales.
En même temps, les enfants sont les usagers des services de restauration, de la circulation, donc il y a lieu aussi d'adhérer en tant que représentant d'élèves aux revendications d'amélioration.
Oui, donc d'abord je voudrais dire aussi que j'ai été un militant de parents d'élèves et que j'ai vécu ce dont vous parlez. Moi j'avais droit, quand je faisais le compte-rendu du conseil d'école, c'était souligné en rouge, c'était raturé, censuré, etc. par la directrice d'école. Donc voilà, là, c'était le type de rapport, alors qu'elle savait que par ailleurs j'étais professeur. Mais bon, ça. Donc j'ai vécu ce genre de choses difficiles. Sinon donc, je voulais revenir un peu sur ce que vous avez dit. Moi ce rôle de médiateur me semble intéressant. Je l'utilise pas pour l'instant, notamment dans des situations de conflit. Alors, je sais pas si vous avez des expériences où vous êtes intervenu à la demande de l'équipe de direction sur une situation de conflit. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, sinon, donc, avec mon collègue, on se disait qu'aussi avant un conseil de discipline, ça pourrait être bien qu'on propose, si les délégués parents sont d'accord, qu'il y ait une préparation, donc, de ce conseil de discipline avec un délégué de parents, si possible, qu'il soit pas dans le conseil de discipline. Voilà, c'est une proposition.
Oui, je voudrais partager juste avec vous un petit point de vue d'enseignant du premier degré, qui a longtemps vécu les conseils d'école comme un pensum, où tous les enseignants de l'école assistent au discours de la directrice qu'ils connaissent déjà, puisque ça a été travaillé d'abord en conseil de maître, et donc où on est là pour être là, et où on s'ennuie. Et je me rappelle les dernières années où on avait travaillé sur faire le conseil d'école autrement, et où on avait mis des vrais sujets de débat dans ces conseils d'école, sur l'apprentissage de la lecture, qu'est-ce qui peut favoriser l'apprentissage de la lecture. Et on est des riches expériences et des souvenirs de débats vifs, mais constructifs pour tout le monde.
Moi, je suis directrice d'école maternelle. Alors, dans un quartier ZEP, déjà, nous, on a de la difficulté à constituer une liste. Donc, en fait, c'est un groupement de parents. Du coup, les parents ne comprennent pas le pourquoi d'aller voter, parce que de toute façon ceux qui se présentent seront forcément élus puisque ce sont les seuls. C'est ce qui nous renvoie. Les parents élus ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de l'école, mais d'une minorité très souvent. C'est aussi effectivement cette idée de parents instrumentalisés, c'est-à-dire qu'ils se sont placés du côté de la direction. Et c'est vrai que, bon, pour avoir vécu les conseils d'école en tant qu'instit ou maintenant en tant que directrice d'école, c'est vrai que c'est pas forcément un moment très joyeux parce qu'effectivement, on est dans de l'informatif. Donc, ce qu'on a essayé de faire depuis 2 ans, c'est de mettre effectivement une question en débat, de manière à ce qu'on puisse dépasser l'informatif. Alors, on commence par l'informatif parce que de toute façon, il y a quand même un certain nombre d'informations qu'on est bien obligé de donner. Et bon, on va dire que les parents ne peuvent qu'acquiescer ou voilà. Et ensuite, ben voilà, dernièrement, la question de débat, c'était les fameuses rythmes scolaires, hein, puisque la ville de Marseille, bon voilà, se fait encore remarquer là-dessus. Donc voilà, c'est effectivement la question sur laquelle on a débattu. Et on essaye de trouver chaque fois une question où, ce qui n'est pas toujours très évident, où on arrive à être à peu près sur le même plan. Ce qui est très compliqué, hein, parce que effectivement, déjà souvent, quand on met des questions en débat, nous, on en a déjà débattu entre nous. On maîtrise mieux la langue que les parents. On a les codes. Et du coup, c'est compliqué. Donc, on essaye quand même de trouver des questions qui peuvent faire objet de débat. Et après, bon, alors moi, ce que je prends aussi, on va dire, je sais que c'est pas très légal. Mais les questions diverses des parents, je les reçois, y compris le jour même. Parce que normalement, les questions diverses doivent être soumises au préalable. Mais bon, même s'il y a des questions le soir même, on en débat. Voilà, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir quelque chose de vraiment vivant. Je dirais, alors c'est moi qui fais les procès-verbaux, je pourrais dire que je pourrais presque les faire au préalable. Alors ça m'arrive aussi parfois de c'est quelque chose qu'on a essayé, c'est-à-dire en gros ceux qui relèvent de l'informatif, de distribuer pratiquement aux parents élus 8 à 10 jours avant pratiquement le ce que je vais écrire, enfin, ou ce que je pensais écrire avec l'accord des collègues bien évidemment. Et de dire aux parents, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça soulève question? De manière à ce qu'aussi, ils puissent anticiper et pas subir. Et après, bon, il y a la question de débat. Voilà, c'est un peu le compromis qu'on a trouvé, parce que je crois qu'on s'y ennuie franchement, les uns et les autres.
Je voudrais bien revenir sur l'histoire de la légitimité. J'en ai un peu marre qu'on nous renvoie cette histoire de légitimité. On est élus, et je rappelle en plus que dans les conseils d'école, nous sommes les seules personnes à être élus. Déjà, rien que ça. En plus de ça, quand on voit les élections nationales, départementales, européennes, personne ne revient sur la légitimité des élus, et souvent ils sont élus avec moins de voix qu'une. Enfin, ils sont élus avec moins de votants que nous dans les écoles. Surtout dans les écoles où il y a plus finalement de votants, quand on a 60, 70 votants, et puis qu'on vient encore nous dire. Oui, vous êtes pas élu avec. Ben non, on n'est pas élu avec 100% des votants, forcément. Mais à part les élections de temps en temps municipales dans certains villages où on a des gros taux de participation, on s'aperçoit quand même qu'on est dans une société où les gens vont de moins en moins voter, quelle que soit l'élection. Puis je voulais revenir aussi sur l'histoire de la préparation des conseils d'école. Au niveau FCPE, quand même, on leur envoie des dossiers de préparation là-dessus. On leur demande de préparer au moins le conseil d'école. C'est quelque chose d'envoyer des questionnaires. On a des questionnaires tout prêts qu'on met à disposition de nos conseils locaux dans les écoles pour que justement ils puissent préparer ces conseils d'école avant. Après, il faut qu'on puisse toucher les parents. C'est pas toujours très très facile. On essaye de récupérer maintenant de plus en plus. Les adresses courriels quand les parents nous en donnent l'autorisation. Et depuis déjà qu'on a cet outil, on a un peu plus de remontée. Mais avant, c'était très très compliqué. Moi, je me rappelle avoir envoyé des questionnaires à tous les parents et d'avoir sur une école où on y avait à peu près 700-800 enfants, d'avoir des retours sur 10 questionnaires. Donc évidemment, là, c'est pas terrible. Je dirais que maintenant qu'on a l'outil informatique, on a beaucoup plus de remontées des parents. En tout cas, on essaye toujours de les préparer avant. C'est vrai que je parle pour les gens de la FCPE, je pense que pour les gens de la PEP, on est exactement. Après, sur tout ce qui est malheureusement liste indépendante, comme on dit, sont indépendants que vis-à-vis les uns des autres. Je n'émettrai pas de jugement là-dessus.
En ce qui concerne la PEP, je pense que mes collègues ne me contrediront pas. On soumet des questions qu'on entend voir abordées à l'ordre du jour et qui ne sont pas retenues dans leur globalité. Donc forcément, la matière et l'ordre du jour ne correspond pas forcément aux attentes. Mais ça aussi, c'est dû au fait que c'est extrêmement chargé sur la vie de l'école. Et pour rebondir sur la communication électronique, il serait souhaitable que les imprimés de renseignements en début d'année soient compatibles avec ce droit des représentants de parents d'élèves d'accéder à l'adresse mail des parents. Parce que si la question n'est pas posée sur le formulaire, oui, on peut courir après les adresses mail, effectivement.
Si je peux me permettre, justement, je trouve qu'en effet, certaines fédérations font un travail assez intéressant en termes d'information, de dépassionner certains débats, certaines questions, de remonter des questions et de les amener dans les instances, comme ce que vous êtes en train de faire là. Et c'est vrai que localement, ça peut être très intéressant de renforcer, non pas en dirigeant les gens vers une ou l'autre, mais de renforcer cette idée qu'en se constituant ce soit des groupes autonomes ou liés à des fédérations, sur des moments de réflexion et d'analyse et de connaissance des objets de travail, ça peut vraiment faire évoluer les choses, puisque maintenant, bon, il y a certes des fédérations, mais il y a aussi des multitudes de supports qui existent sur le net et qui permettent vraiment aux gens d'exercer ce droit et de l'exercer avec beaucoup plus de connaissances. Donc ça, c'est vrai que... Et ça serait intéressant, justement, de mener une étude et de regarder comment le fait d'appartenir à une association ou une fédération d'associations, ça a conduit à des pratiques plus aisées dans ce qui est de... Voilà, c'est plus initié et moins passionné. Ça serait très intéressant de regarder à quel point ça joue ou pas dans la qualité des relations qu'il y a entre l'école et les parents.